France Inter.
Ce soir, eh bien, on a rendez-vous avec un musicien d'autrefois que je n'hésiterai pas à présenter comme un génie rare. C'est d'ailleurs pas fréquent que j'emploie ce mot, mais vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parti.
Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, I searched behind your eyes for you. And soon there'll be another to tell you I was just a lie. And sometimes I wonder just for.
Et parfois, je me demande un court instant si tu vas te souvenir de moi. C'est par cette interrogation que s'achève la chanson que vous venez d'entendre, Once I Was, une chanson qui, ça s'entend j'imagine, ne date pas d'hier, une chanson qui avait écrite et interprétée un jeune homme qui en 1967 avait tout juste 20 ans et s'appelait Tim Buckley. Alors Buckley, il y en a qui doivent se dire parmi vous, mais je connais ce nom. Ben oui, Jeff Buckley, évidemment, l'homme qui a rendu universellement populaire la chanson Hallelujah de Leonard Cohen et qui avait par ailleurs d'immenses qualités de musicien et de chanteur, Jeff Buckley, qui nous a quittés prématurément en 1997. Eh bien, Jeff Buckley portait un nom qui, pour beaucoup d'amateurs, avait suscité au milieu des années 90, suscitait, éveillé des souvenirs très émus. On peut dire que déjà il existait un culte au sens vrai et fort du terme pour l'œuvre de son père, Tim Buckley, auquel je vais consacrer l'émission de ce soir intégralement. Oui, Tim Buckley est mort il y a de ça 50 ans tout juste, un demi-siècle, hein, ça fait beaucoup, à l'âge de 28 ans seulement, laissant derrière lui une œuvre enregistrée qui ne ressemble à aucune autre. Je vous promets que ça n'a rien d'une exagération. Je me rappelle qu'en 1994, lors du tout premier concert parisien de Jeff Buckley, c'était en tout petit comité, et bien, d'ailleurs, on avait attendu jusqu'à plus d'une heure du matin, et bien, il y avait, je sais pas, des cadras, oui, plutôt des quinquas qui étaient venus, à l'époque, j'aurais dit des vieux, pour voir si, chez le fils, avait infuser quelque chose du génie paternel, du génie de Tim Buckley. Ce qui était bizarre, puisque, on l'a vite appris, Jeff Buckley ne devait strictement rien à son père Tim, enfin à part la filiation, puisque Tim Buckley, qui avait été père à l'âge de 19 ans, s'estimait inapte à la paternité et il avait abandonné le petit garçon à sa mère et n'avait pratiquement jamais vu son fils Jeff, sauf une fois très brièvement. Jeff, interrogé au sujet de son père, avait dit, il faut croire que c'était vrai, qu'il ne connaissait rien à la musique de son père. Il a néanmoins, c'est intéressant à souligner, interprété cette chanson qu'on vient d'entendre, Once I Was, sur scène à New York, c'était en 1991, donc bien avant sa célébrité. Et quand il l'a introduite auprès d'un tout petit public, Jeff a dit, je le cite, « Je devais avoir 6 ans et ma mère m'a fait écouter cette chanson. C'était la première fois que j'entendais la voix de mon père et je dois avouer que j'ai surtout ressenti de l'ennui. » Il a néanmoins chanté, et comme il l'a dit, ça avait pour lui un côté mystérieux, la voix d'un père invisible. Alors, il n'y a aucune actualité particulière autour de Tim Buckley, aucune réédition, il n'y a pas de documentaire inédit sur lui sur une plateforme de streaming. Simplement, je suis tombé il y a quelques jours sur un long article dans un magazine britannique dont je vous parle parfois, même souvent, Mojo, qui évoquait le parcours de Tim Buckley. Une évocation enrichie par le témoignage de quelques survivants à l'occasion donc du 50e anniversaire de sa disparition. Une disparition brusque et prématurée, plus prématurée encore que celle de ce fils qu'il n'a jamais connu, puisque Tim, le père, est mort à 28 ans en 1975, et le fils, Jeff, à 30 ans en 1997. Alors, pourquoi et surtout comment Tim Buckley a-t-il laissé une marque si profonde et si singulière dans l'histoire de la musique? Il y a une façon simple de l'éclairer peut-être pour commencer. Tim Buckley, qui n'avait que mépris pour le rock'n'roll, il faut le souligner, a été le premier, dans la seconde moitié des années 60, à orienter la chanson folk vers la liberté rythmique et harmonique du jazz. Il n'a pas été le seul, d'autres lui ont emboîté le pas, notamment sur les îles britanniques. Je pense par exemple au groupe Pentangle, avec les guitaristes Burt Jansch et John Renbourn. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça. Tim Buckley est aussi le premier, et pour le coup il est resté le seul, enfin à ma connaissance, à avoir entraîné ses chansons de type country folk vers parfois des orchestrations atonales et des expérimentations audacieuses qui, alors il faut le souligner aussi, ne lui ont apporté aucune popularité. Cela dit, ses débuts à 20 ans étaient encore assez classiques, mais déjà, on sentait dans un de ses premiers standards, c'est beaucoup dire, enfin une de ses chansons les plus connues, Morning Glory, chez Tim Buckley, une personnalité à part et une voix comme on en entend rarement.
I lit my purest candle close to mine window, hoping it would catch the eye of any vagabond who passed it by. And I waited in my fleeting house. Before he came, I felt him drawing near. As he neared, I felt the ancient fear that he had come to wound my door and jeer. And I waited in my fleeting house. Tell me stories, I call to the hobo. Stories of cold. Said the hobo, no more tales of time. Don't ask me now to wash away the grime. I can't come in 'cause it's too high a climb. And he walked away from my fleeting house.
Inter. Thank you.
Better, une chanson qui met en valeur le vibrato particulier de Tim Buckley, une chanson qui est extraite de son troisième album Happy Sad, qui était paru en 1969. Alors, rapporté à ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos de l'abandon par Tim de son fils Jeff, eh bien cette chanson a une résonance particulière. Je cite les paroles de cette, entre guillemets, dream letter, lettre rêvée qu'il n'a jamais adressée. « S'il te plaît, ma chérie, écoute mes prières creuses, viens dormir dans mes rêves. Tout ce que j'ai envie de connaître cette nuit, c'est toi et mon enfant. Est-il un soldat ou un rêveur? Est-il déjà un petit homme pour sa maman? Est-ce qu'il t'aide à la maison? Est-ce qu'il te pose des questions sur moi ?» Ah oui, des paroles traversées par le remords et la culpabilité, évidemment. Ce sont les thèmes qu'on rencontre traditionnellement dans la chanson country. Une tradition à laquelle Tim Buckley avait été exposé dès son plus jeune âge par son père, un descendant d'immigrants irlandais qui aimait écouter les chansons de Hank Williams. Hank Williams qui a tellement marqué en profondeur Leonard Cohen, tout comme bien sûr Bob Dylan et Johnny Cash. Cela dit, quand vous entendez la voix de Tim Buckley et l'orchestration de cette chanson que nous venons d'entendre, donc Dream Letter, vous pensez à tout sauf au style habituel propre à la musique country. Il y a une guitare jazz, il y a une contrebasse qui est jouée à l'archet et il y a un vibraphone, ce qui est extrêmement inattendu. Enfin, tout ce qu'a pu entreprendre Tim Buckley dans la chanson était aussi inattendu que audacieux. Comme je vous le disais, Tim Buckley n'avait que mépris pour la simplicité élémentaire du rock'n'roll. Vous savez, la chanson couplet-refrain, et d'ailleurs, et de la chanson folk aussi d'ailleurs à laquelle on l'avait assimilé à ses débuts. Tim Buckley était assez radical dans son genre. En 1972, un journaliste qui lui demandait ce qu'il pensait du rock, dont la popularité battait alors son plein, voici ce que Tim Buckley avait répondu. « Le rock, je n'ai jamais rencontré un musicien de rock auquel j'ai eu envie de parler plus de 5 minutes, mais de quoi est-ce que je pourrais lui parler ?» Radical, hein, comme je vous disais. Tim Buckley avait en fait été imprégné par les voix des grandes chanteuses de jazz qu'aimait écouter sa mère, Bessie Smith et Billie Holiday, chanteurs aussi comme Nat King Cole. Sa mère l'avait également initié à Miles Davis, ce qui avait naturellement conduit Tim à écouter la musique du grand vibraphoniste Milt Jackson, dont les solos au sein du célèbre Modern Jazz Quartet étaient de l'étoffe des légendes. Voilà, j'ai lu ça, je ne le savais pas directement. En tout cas, quand il a commencé à se faire connaître, Tim Buckley jouait en trio. Lui à la guitare folk 12 cordes, son ami Lee Underwood à la guitare jazz, et puis il y avait également un joueur de conga noir, Carter Collins, un joueur de conga noir. C'est lui-même qui le dit, interrogé par le magazine Mojo. Personne n'avait jamais vu ça dans le circuit de la chanson folk en 1968. Tim Buckley avait en fait une approche de musicien de jazz, comme en témoigne cette chanson Blue Melody, extraite de son album Blue Afternoon, qu'il a publié à la fin de l'année 1969.
I was born a blue melody, a little song my mama sang to me. It was a blue melody, such a blue. There ain't no wealth that can buy my pride. There ain't no pain that can cleanse my soul. No, just the blue melody. One summer morning,
Ain't nobody walking, no and she's gonna like her. Not just a shouted little girl, there's something more than you desire.
Nobody Walkin', c'est le titre qui clôt un des albums les plus marquants de l'année 1970, Lorca, il faudrait dire Lorca parce que c'est évidemment le nom du célèbre poète espagnol Federico García Lorca qui a été, vous savez, tué par des miliciens franquistes en 1936 et auquel donc Tim Buckley voulait rendre hommage. Tim Buckley auquel, je le rappelle, je consacre un Very Good Trip spécial ce soir sur France Inter. Alors vous venez de l'entendre dans ce titre, dans cette chanson et dans tout l'album Lorca, eh bien Tim Buckley, autant qu'il chante, grogne, glapille, ulule, enfin bon, je vais pas épuiser toute la liste des verbes liés au son que peuvent émettre les animaux divers et variés, qu'ils soient à poil ou à plume, sa voix, et chacun peut le capter, le percevoir, un instrument de musique qui lui est propre, qu'il façonne avec une liberté sans frein, sans pudeur, et dirait-on également sans contrôle. Dans cette approche, on trouve bien sûr son admiration pour certains musiciens de jazz comme John Coltrane et de free jazz en particulier comme Ornette Coleman, dont les solos de saxophone semblaient traduire les interjections, exclamations et interrogations aussi. Alors, Lorca est un album dans lequel Tim Buckley a pu aller jusqu'au bout de sa vision. Il n'y a que 5 titres hein, sur les deux faces. Aucun ne fait moins de 6 minutes. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, des groupes, de jeunes groupes comme King Crimson et Pink Floyd diffusaient des albums dont certains morceaux étaient des, entre guillemets, des suites hein, qui dépassaient allègrement les 10, voire les 15 minutes, ce qui évidemment est anti-radiophonique au possible. Cela dit, le but de ces musiciens n'était pas de passer à la radio, mais d'entraîner l'auditeur dans une expérience nouvelle, une expérience totale, un voyage vers l'ailleurs. Évidemment, ils espéraient aussi vendre des disques. Un objectif que Tim Buckley, hélas, il faut le souligner, n'est jamais parvenu à atteindre. L'album le plus populaire de sa carrière, Happy Sad, qui est sorti en 69, n'a atteint que les profondeurs du classement, comme on dit, hein, des 100 meilleures ventes d'albums aux États-Unis, et ça a été, comme je vous disais, la meilleure vente de sa carrière. Quant à l'album Lorca, il n'est même pas classé dans la liste des 200 meilleures ventes de l'année 70. Alors, bien sûr, parmi les admirateurs de Tim Buckley, il y en a beaucoup, je sais pas, mais il y en a qui mettent au pinacle cet album, parce que il est d'une certaine façon maudit et qu'il a certainement fait s'arracher les cheveux des responsables de la compagnie de disques Elektra, qui était établie à Los Angeles où vivait Tim Buckley. Elektra qui publiait les disques des Doors et qui avait lancé aussi, faut pas l'oublier, les premiers albums des Stooges avec Iggy Pop, bien sûr. Alors c'est vrai, Lorca, c'est un enregistrement fascinant. Cela dit, et peut-être alors que les inconditionnels de Tim Buckley qui m'écoutent vont froncer les sourcils ou peut-être jeter un objet dans leur salon, je ne sais pas, mais je me permets d'estimer que sa plus belle chanson, Song to the Siren, ça c'est peu contesté, est plus belle encore sous une version plus simple que celle que l'on connaît, une version sans fioritures qui était apparemment une version de travail et qui n'est pas tout à fait celle qu'on entend dans l'album Star Sailor qui était paru à la fin de l'année 70, très peu de temps après Lorca. Tim Buckley s'était en effet livré dans cet enregistrement à un collage de voix plus hautes, hein, comme ça en contrepoint. Hein, il faut rappeler que son registre vocal s'étendait sur 5 octaves et demi, c'est rarissime. Alors, cette version qu'on connaît hein, de Song to the Siren est très belle, elle est même étonnante. Cela dit, cette version plus simple que je vous propose d'écouter, où sa voix est davantage mise en avant, a une beauté limpide, inégalable. Song to the Siren, Tim Buckley, et seulement Tim Buckley, 50 ans après sa mort, ce soir, dans Very Good Trip, sur France Inter.
Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you hair when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Oh my heart, oh my heart, is waiting to hold you. In my heart where I long for you, in my smile I search for you each time. You turn and run away, I cry and sigh, my silly way, just too young to know anymore. In my world, the devil dances and dares to leave my soul just anywhere until I find peace in this world. I'll sing a song
just too young to know anymore. The wind covers me cool. There's starry skies all around my eyes, far behind the city moons, well worthy of the people there. Oh, the songs they love to hear. So let me sing a song for you, just to help your day along. Let me sing a song for you, one I've known so very long. Oh, please, could you find the time?
Sing a song for you, ou bien Skies, entre parenthèses, Let me sing a song for you, une version un peu différente de la chanson sur laquelle se refermait l'album Happy Sad, et qui reste le plus populaire de Tim Buckley, même si, bah, comme je vous le disais, il s'en est écoulé très peu d'exemplaires en son temps, l'année 1969. Comme le disait Lee Underwood, le guitariste de jazz qui a longtemps accompagné Tim Buckley, on était coincé dans un entre-deux entre musique commerciale et improvisation. Il faut dire que Buckley ne s'est pas rendu les choses faciles. Sous l'influence d'un autre de ses accompagnateurs, le contrebassiste John Borkin, un collaborateur de Frank Zappa, eh bien Tim Buckley s'était passionné pour la musique atonale de l'italien, du compositeur italien Luciano Berio, ainsi que pour certaines œuvres atonales, elles ne le sont pas toutes, du compositeur polonais Krzysztof Penderecki, comme le train, vous savez, le train, c'est une complainte, le train à la mémoire des victimes d'Hiroshima. Et c'est cette découverte, comme celle de l'album de Miles Davis In a Silent Way, qui explique le choix de certains chemins musicaux insolites empruntés par Tim Buckley. Alors bien sûr, vous l'imaginez bien, ça ne lui a pas facilité la tâche auprès de ses interlocuteurs dans les maisons de disques. Les plus éclairés des professionnels avaient bien sûr capté le génie particulier de Tim Buckley, et puis des musiciens très curieux, très ouverts, comme George Harrison, et oui, celui des Beatles, s'était enthousiasmé pour sa musique, puisque Harrison avait même tenté en vain de convaincre Brian Epstein, le manager du groupe, de développer la carrière de Tim Buckley. C'est le manager de Frank Zappa, Herb Cohen, qui avait découvert Tim Buckley en personne, et il ne l'a jamais lâché. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant, Herb Cohen avait été le premier à capter le potentiel d'un excentrique nouveau venu de la ville de Détroit, j'ai nommé Alice Cooper. Et oui. Alors, je vous le dis tout de suite, enfin, ça vous surprendra pas, avec Tim Buckley, ça n'a pas du tout pris. Et voilà, malgré ce soutien, eh bien, l'insuccès a perduré. Et cet insuccès chronique a fini par déprimer Tim Buckley, qui est tombé, comme on dit pudiquement, dans les mauvaises habitudes. Il s'est retrouvé à court d'argent, il a dû gagner sa vie comme chauffeur de taxi, puis comme chauffeur tout court, chauffeur de maître, comme on dit. Imaginez, c'est très inattendu, Tim Buckley s'est retrouvé à un moment à Los Angeles, chauffeur de la star du funk rock psychédélique Sly Stone. Ben oui, le Sly, de Sly and the Family Stone, imaginez que c'est Tim Buckley qui conduisait sa voiture. Et c'est très très inattendu aussi, Tim Buckley a décidé à un moment donné que s'il voulait vendre des disques, il fallait écouter ce qui passait à la radio, ce qui marchait. Et il s'est dit, je vais le faire à ma façon, peut-être que ça va fonctionner. Et ça a donné une musique tout à fait différente de celle qu'on lui connaissait, et qui sonne, en tout cas la chanson que je vais vous passer, ça sonne étrangement comme si l'Irlandais Van Morrison avait chanté un groupe funky tendance pop. La chanson que je vous propose d'écouter s'appelle Make It Right, et elle conclut un album que Tim Buckley a publié en 1972 intitulé Greetings from LA.
I'm feeding now. Trip sur France Inter.
Operator, number please. It's been so many years. She'll remember my old voice while I fight the tears. It's been 20 years or more now, Martha, please recall and meet me out for coffee where we'll talk about it all. Yeah. Those were days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you and all your head was me. There was no tomorrow. We packed away all our sorrows and we saved it for a rainy day. I feel so much older now. Oh, and you're much older too. How's the husband? And how's the kids? You know that I got married too. Guess that our being together was never meant to be. But Martha, Martha, love you, can't you see? Yeah. Those were days of roses, of poetry and prose, and Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away our sorrows and we saved. Days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow.
Martha, bah comme Martha. Une ballade country pop orchestrée à la façon du chanteur Nilsson, ça fait un peu penser à son style. Une autre facette encore de Tim Buckley en 1973 dans un album qui s'appelait Sephronia et qui n'a pas plus marché que les autres. On peut y entendre aussi sa très belle version de Dolphins. C'est une chanson de Fred Neil qui est restée une de ses interprétations les plus populaire. Alors Sephronia, c'est un album à la palette assez variée, on y entend une sorte de rock funky, oui un peu rock, oui, malgré ce qu'il disait, style Nouvelle-Orléans, assez sexy au fond, mais à la fin, Buckley retourne à son style de folk orchestral harmoniquement riche. Il ne lui restait plus que un an et demi à vivre quand cet album est sorti, et il restait encore à Tim Buckley un album à enregistrer, Look at the Fool. Alors Buckley, au dire de ceux qui le côtoyaient alors, avait remonté la pente. Il allait mieux, il s'était remarié, et après avoir refusé la paternité, eh bien il avait adopté le petit garçon de sa nouvelle femme, un petit garçon qui s'appelait Taylor, et même s'il était fauché, il avait une perspective, devenir un chanteur populaire, et même si ça devait prendre du temps. Il était reparti en tournée avec ce groupe funky qui l'accompagnait. Et puis, malheureusement, enfin, tragiquement, un soir de juin 75, il a donné un concert. C'était donc au milieu d'une tournée. Et un ami l'a raccompagné ce soir-là chez lui. Un ami qui avait dans sa voiture, dans la boîte à gants, j'imagine, de la poudre blanche. Il en a donné une dose à Tim, qui en a reniflé un peu. Et apparemment, il y aurait eu de sa part une confusion sur la nature de cette poudre. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, en plus j'en sais rien, j'y étais pas. En tout cas, on a retrouvé Tim Buckley mort chez lui le lendemain matin. Selon toute vraisemblance, ce sont d'autres produits, légaux et illégaux, qu'il a ingérés chez lui dans un état euphorique qui l'aurait achevé. La postérité de Tim Buckley, j'y faisais allusion, elle a largement perduré. Une génération d'amateurs de musique différente dans les années 80 a découvert la chanson Song to the Siren dans une reprise qui était attribuée à un groupe de circonstances du nom de This Mortal Coil qui avait été réuni par le fondateur de la compagnie de disques 4AD, et c'était la voix rare de Elizabeth Fraser qui fut la chanteuse des Cocteau Twins qui interprétait cette reprise. Cocteau Twins, vous savez, c'est un trio qui a beaucoup marqué cette période en inventant une sorte d'électro-folk onirique qui était tout à fait nouveau à l'époque et qui, au fond, avait trouvé son inspiration dans un certain style propre à Tim Buckley. Et coïncidence qui mérite d'être mise en lumière, Elizabeth Fraser fut la fiancée de Jeff Buckley. Et oui. Pour se quitter, eh bien, une chanson très soul de Tim Buckley, une des dernières qu'il ait enregistrée, elle a donné son titre à son ultime album, Look at the Fool.
Each and every day, every little way, I been
presque quelque chose de Prince dans cette chanson enregistrée en 1974 par Tim Buckley, c'est-à-dire un an tout juste avant sa mort. La chanson s'appelait Look at the Fool et elle a donné son titre à son ultime album. Alors si vous voulez poursuivre cette exploration, il existe une très bonne compilation qui s'appelle tout simplement The Best of Tim Buckley. Et puis sinon, eh bien les albums Happy Sad et Goodbye and Hello dont je vous parlais sont les plus accessibles. Il existe en plus un enregistrement fascinant qui s'appelle Dream Letter, paru en 1990. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Tim Buckley. C'est l'enregistrement d'un concert d'anthologie que le chanteur a donné à Londres en 1968. Voilà, vous savez tout ou presque. Tout de suite après les informations, vous retrouverez bien sûr le côté club de Laurent Goumard, qui recevra ce soir Thierry Suc ainsi que Mathias Malzieu.